France Musique. Musicopolis. Johann Schobert, un virtuose dans le Paris pré-révolutionnaire. On sait vraiment très peu de choses de la vie de Schobert, du moins de ses premières années. Notre connaissance de sa biographie commence à son arrivée à Paris en 1760 ou 61. Sa mort, en revanche, est très bien documentée, grâce au baron Grimm, qui la raconte dans une lettre de septembre 1767. Le jour de Saint-Louis, écrit le baron Grimm, a été marqué cette année par un événement bien sinistre. Monsieur Schobert, connu des amateurs de musique comme un des meilleurs clavecinistes de Paris, avait arrangé une partie de plaisir avec sa femme, un de ses enfants de 4 à 5 ans et quelques amis, parmi lesquels il y avait un médecin. Ils étaient au nombre de 7 et allèrent se promener en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Schobert aimait les champignons à la fureur, il en cueillit dans la forêt pendant une partie de la journée. Vers le soir, poursuit le baron Grimm, la compagnie se rend à Marly, entre dans un cabaret et demande qu'on lui apprête les champignons qu'elle apporte. Le cuisinier du cabaret, ayant examiné ces champignons, assure qu'ils sont de la mauvaise espèce et refuse de les cuire. Piqués par ce refus, tous sortent de ce cabaret et en gagnent un autre dans le bois de Boulogne, où le maître d'hôtel leur dit la même chose et refuse également de leur apprêter les champignons. Une cruelle obstination fondée sur ce que le médecin qui était de la compagnie les assurait toujours que ces champignons étaient bons, les fait encore sortir de ce cabaret pour les conduire à leur perte. Ils se rendent à Paris, chez Schobert, qui leur donne à souper avec ses champignons. Et tous, au nombre de 7, y compris la servante de Schobert qui les avait apprêtés, et le médecin qui prétendait si bien s'y connaître, tous meurent empoisonnés. Voilà donc pour la partie la mieux documentée de la biographie de Schobert, sa mort. Quel âge avait-il à ce moment-là? Peut-être 32 ans. Impossible de le savoir exactement pour le moment. On ignore tout de sa naissance, date comme lieu. Plusieurs hypothèses existent. Selon Grimm, encore, qu'il a connu à Paris, Schobert a péri à la fleur de l'âge, il était silésien. ce qui n'est évidemment pas très précis. Mais il serait donc originaire de l'Est de l'Allemagne. Kogelberg, en revanche, dans un dictionnaire des musiciens paru en 1790, Schobert vient de Strasbourg. Un autre prétend qu'il serait de la région de Nuremberg. Et pour finir, Hugo Riemann, qui publie les œuvres complètes de Schobert en 1909, affirme qu'il vient de Mannheim, puisque ses œuvres ressemblent à celles des compositeurs de l'école de Mannheim, et qu'en outre, il a dédié un volume de sonates au secrétaire du prince palatin, dont le siège se trouve en cette ville. Inutile de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, aucune trace n'a été trouvée de la naissance de notre Schobert dans aucun de ces endroits. C'est donc à Paris qu'apparaît Johann Schobert en 1760 ou 1761. S'il vient de Silésie, ou du moins de ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne, il aura peut-être été confronté aux ravages de la guerre de 7 ans qui sévit en Silésie, en Saxe et en Prusse. Frédéric II est alors allié avec les Britanniques contre les Français et les Autrichiens. En revanche, il ne se passe rien sur le sol français. Paris est tranquille. Le roi Louis XV règne à Versailles. En 1760, Paris est une capitale qui a tout pour attirer les musiciens. C'est qu'il y a plusieurs sortes d'institutions qui peuvent les employer. La cour, d'abord, à Versailles, avec sa chapelle et tous ses concerts, publics ou privés. La reine Marie Leczinska est une grande mécène et elle accueille de nombreux artistes. À Paris, pendant ce temps, deux établissements luttent pour les faveurs du public. L'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'opéra, fait jouer toutes sortes d'œuvres lyriques et de ballets. Et lorsqu'elle est fermée, à savoir lors des 24 fêtes religieuses qui se succèdent dans l'année, le concert spirituel prend le relais. Là, tout chanteur ou virtuose, français ou étranger de passage, est certain de pouvoir se faire entendre. un musicien arrivant à Paris au début des années 60, 1760, le plus sûr moyen d'assurer sa subsistance est de trouver à s'employer dans une maison d'aristocrates. Ils sont nombreux alors à entretenir qui un petit groupe de musiciens, qui quelques chanteurs, qui un claveciniste, qui un orchestre tout entier. C'est justement le cas du prince de Conti. Plus précisément, Louis-François de Bourbon, prince de Conti. Membre de la famille royale, cousin de Louis XV. Le prince a fait carrière dans les armes d'abord, puis il a essayé d'avoir de l'influence à la cour. Comme ça ne marchait pas, il s'est retiré à Paris et il est rentré dans l'opposition, si on peut le dire de cette manière un peu anachronique. Dans les années 60, il tient salon dans son palais du Temple, un beau palais avec jardin construit un siècle plus tôt dans l'enceinte du Temple, dans le quartier qui porte encore ce nom aujourd'hui. Il en a fait un rendez-vous des écrivains, politiciens, philosophes, artistes et musiciens. Le premier violon du prince de Conti est Pierre Vachon, un virtuose qui se produit très souvent au concert spirituel et dont on entendait à l'instant un quatuor. À la tête de l'orchestre, Jean-Claude Trial, qui dirige également à l'opéra et qui compose avec quelques réputations. Chaque jour, dit-on, son concert était varié par quelques nouveautés, comme de petits airs arrangés avec goût et des ariettes d'un genre et d'un style qui n'étaient qu'à lui. Le chanteur Pierre Géliot, qui a enchanté les soirées de l'Académie royale de musique, est l'un des habitués du salon du prince de Conti. Et lorsqu'il ne s'accompagne pas lui-même à la guitare, il est probablement accompagné par les membres de l'orchestre du prince, formés des meilleurs instrumentistes de l'opéra. Parmi eux, des violoncellistes, cornistes, oboïstes, clarinettistes, harpistes, etc. Le prince a aussi des compositeurs à son service, notamment Joseph Gossec. Mais il semble bien que le préféré de tous, ce soit Johann Schobert, qui revendique dès son premier opus d'être claveciniste de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Conti. Quelques années du séjour de Johann Schobert à Paris, entre 1760 et 1767, sont aussi celles qui voient se développer un nouvel instrument, le pianoforte. Même si toutes les œuvres de Schobert sont déclarées être destinées au clavecin, il est probable que lui-même les a essayées sur des pianos. Le baron Grimm dit de Schobert « Ce musicien avait un grand talent, une exécution brillante et enchanteresse, un jeu d'une facilité et d'un agrément sans égal. » Il ajoute « Il n'avait pas autant de génie que notre Eckhart, qui reste toujours le premier maître de Paris, mais Schobert avait plus d'admirateurs qu'Eckhart, parce qu'il était toujours agréable et qu'il n'est pas donné à tout le monde de sentir l'allure du génie. » Les compositions de Schobert étaient charmantes. Il n'avait pas les idées précises de son émule, mais il connaissait supérieurement les effets et la magie de l'harmonie, et il écrivait avec beaucoup de facilité, tandis que M. Eckhart ne fait que difficilement les choses de génie. C'est que ce dernier ne se pardonne rien, et que Schobert était en tout d'un caractère plus facile. Ce sont toutes ces qualités, sans doute, qui ont fasciné un tout jeune garçon, enfant prodige, venu à Paris avec sa famille à la fin de 1763, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart va étudier attentivement les partitions de Schobert et en citer quelques extraits dans ses propres œuvres. Lorsqu'il reviendra à Paris en 1778, plus de 10 ans après la mort de Schobert, il fera encore travailler les sonates du défunt maître à ses élèves. Dans ses œuvres, Johann Schobert s'est toujours montré très sensible, avec une sensibilité peut-être même en avance sur son temps, ce qui fait que ses œuvres resteront jouées encore longtemps. Au siècle suivant, Fétis, l'historien de la musique, dira que le style de Schobert était original et absolument différent de celui des compositeurs de son temps. Le premier, écrit Fétis, Schobert sut donner de l'intérêt aux accompagnements des concerts de clavecin sans nuire à la partie principale. Quant à Charles Burney, l'historien britannique, il écrit en 1789 que les pièces pour clavecin de Schobert ont été depuis longtemps le régal de tous ceux qui pouvaient les jouer ou les entendre, et que c'est en Angleterre et en France qu'il a été le plus apprécié. La sœur de Goethe, Cornelia, écrit en octobre 1767 à propos de Schobert. Il a composé 15 ouvrages gravés d'une taille douce qui sont excellents et que je ne me saurais lasser de jouer. Toute autre musique ne me plaît presque plus. En jouant, des sentiments douloureux percent mon âme. Je le plains, ce grand auteur qui, à la fleur de son âge, avec un tel génie, a fallu périr d'une façon si misérable et inopinée. Quant au prince de Conti, il s'est trouvé inconsolable d'avoir perdu son claveciniste. À la même époque, un marquis était lui aussi mort empoisonné par des champignons. « Ah !» dit le prince, « le roi peut faire un marquis, mais pas un Schobert. » Le final du concerto en sol majeur opus 9 de Johann Schobert, Fania Shapiro au pianoforte, avec l'ensemble Musica Adrenum dirigé par Jed Wentz. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et aussi sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max James pour la réalisation, Philippe Mercher pour le mixage et Élise Kravets pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.